Salut les marques, salut les smarts, bienvenue dans Catch Up. Je suis Ringside et vous écoutez le podcast qui transpire le catch ici toutes les semaines. On analyse, on débat, on décortique les émissions phares de la WWE, SmackDown, Monday Night Raw, NXT, les pay-per-view. Et cette semaine, on se retrouve pour Hell in a Cell, le pay-per-view dans la cage, le dernier pay-per-view de la WWE. Au programme, on se bat pour le contrat Money in the Bank, la défense des titres poids lourds et défense du titre de champion de l'univers masculin, défense du titre féminin SmackDown, tout ça, c'est dans la cage de l'enfer. Il y aura aussi un Open Challenge et un concert de gratte. C'est un programme chargé et pour m'accompagner, pour analyser tout ça, en direct de l'EHPAD, ce bon vieux papy, comment ça va papy ?
Bonjour les petits enfants, bonjour Inkside, ça va effectivement, une carte chargée comme jamais en termes d'enjeux, à défaut en termes de match.
C'est vrai, beaucoup d'enjeux, peu de matchs, tout ça booké à la va-vite, hein, parce que je crois qu'on n'avait pas les matchs le samedi.
Oh oui, là, c'était, ils ont démarré la semaine avec un match, ils arrivent péniblement à 5 ou 6, ils ont fait ce qu'ils pouvaient.
Ouais, un peu géré comme un reconfinement à la française, hein, j'ai envie de dire.
Et oui, c'est ça. Ils attendaient la décision officielle et puis bah, ils ont trop tardé. Résultat, à l'arrache.
C'est ça. Alors avant de se recloîtrer chez nous, bah, on va aller se cloîtrer dans le Hell in a Cell, la cage sans pitié de la WWE. Alors, il y avait un kick-off, hein, comme à chaque fois. Mais alors malheureusement, oui. Ni toi ni moi, on ne l'a vu.
Et ça devait être bien, certainement, hein, n'est-ce pas ?
Bah, oui, bah, c'est sûrement un kick-off de grande qualité, comme la WWE a l'habitude de nous proposer. Il y avait Jeff Jarrett, tiens, pour une fois, qui était là, d'après ce que je lis. Mm-hmm. Et surtout, les deux points importants, Mustafa Ali a lancé un open challenge envers le Hurt Business. Et voilà, il est prêt à envoyer un de ses gars pour affronter un mec du Hurt Business. On aura la réponse dans le pay-per-view. Hein, on rappelle que Mustafa Ali, c'est le patron de Retribution. Retribution, comme on dit en anglais. Oui. Et l'autre point à noter, c'est un match, évidemment, entre R-Truth et Drew Gulak pour la défense du titre 24-7.
Oh, et, un match pour une ceinture,
oh là, c'est ça, non, carrément. Un championship. D'habitude, c'est les tag teams qui sont là, mais cette fois-ci, on met les petits plats dans les grands. 5 minutes 23 de match. Victoire donc de R-Truth, évidemment, le champion, qui apparemment a fait un petit comeback façon John Cena. Et après, il y a Akira Tozawa et la Lucha House Party qui sont venus poursuivre Truth pour récupérer le Graal, le Saint Graal, la ceinture 24-7. Gulak est venu un petit peu critiquer John Cena au micro.
Ah, carrément.
Ah ouais. Ouais, ouais. Critique le héros de notre ami R-Truth. Bon, ça pourrait peut-être être sympa. Hein. En tout cas, ça mène des pistes pour la suite.
Ah oui, peut-être un Gulak Cena à WrestleMania.
Peut-être bien.
On l'a entendu ici en premier.
Ouais, c'est ça. Tenez-vous bien. L'affrontement est quasiment signé. Il s'est marié, tiens, John Cena. On lui souhaite ses meilleurs voeux.
Félicitations, Johnny.
Johnny, ce bon vieux John. Bon, on va commencer par rentrer dans le pay-per-view, le gras du plat de résistance, j'ai envie de dire, puisqu'on démarre tout de suite avec la défense du titre de champion. Bah, c'est quoi alors ? C'est champion de l'univers ?
Oui,
c'est ça. WWE Universal Championship détenu par Roman Reigns qui affronte son cousin Jey Uso, des Uso, la célèbre équipe. Et ils s'affrontent dans le Hell in a Cell, sachant que si Jey Uso perd, les Uso, les deux frères, deviennent les acolytes de Roman Reigns. Donc il y a de l'enjeu. Il y a de l'enjeu. Donc. Ben, ça se fout sur la gueule assez méchamment. Hein. On va utiliser des chaises, on va aller s'exposer contre les grilles. Roman Reigns, il va quand même enchaîner les spears. Hein. Il va s'en manger deux ou trois hein, des spears, ce bon vieux Jay. On va même sortir. Alors, c'est des tombées de deux à chaque fois. C'est un I Quit match, hein, je suis obligé de préciser. Ouais. Donc, il n'y a pas de tombée. Hein. et c'est le mec qui dit I quit qui a perdu. Donc on va même utiliser un, comment ils appellent ça, une strap, une lanière, un, comment t'appellerais ça toi en français,
oui effectivement, strap c'est bien,
on va dire un strap, c'est bien, allez un strap pour étrangler Roman Reigns, hein, essayer de le faire crier I quit, mais il va passed out comme on dit, il va s'évanouir. Donc Jay va relâcher la pression quand même histoire de pas tuer son cousin. Roman Reigns va revenir, il va lui faire une guillotine, et puis après il va continuer à lui taper dessus, l'arbitre va essayer de le faire arrêter, il lui dit c'est bon, c'est fini, il se relèvera plus là, Jey Uso. Mais non, Roman Reigns il dit non, il faut qu'il dise I quit, hein, je veux l'entendre dire les mots I quit, et il prend l'arbitre, il dit c'est toi qui es fini, tu dégages, hop, il se débarrasse de l'arbitre. Alors là, les officiels qui débarquent, mais personne ne peut arrêter Roman Reigns jusqu'à l'arrivée de Jimmy Uso, l'autre frangin, qui va essayer de sauver son frère, mais il va se faire aussi choper par Roman Reigns, défoncer, étranglé dans la guillotine, et pour éviter que Jimmy finisse mal, c'est Jey Uso qui va dire I quit pour sauver son frère, et c'est la victoire de Roman Reigns. Après un match qui a duré 29 minutes 09, un match à la Paul Heyman, hein, j'ai envie de dire. Paul Heyman qui est toujours le manager de Roman Reigns, puisqu'il y a beaucoup d'enchaînements de signature move et de finisher en fait. Hein, des Superman Punch, des Spears, des Super Kicks et des Frog Splash du côté de Jey Uso. Voilà, donc Roman Reigns quand même il est félicité par Afa Isika à la fin du match, et voilà, c'est une belle victoire de Roman Reigns qui lui remettent à cadeau,
ils lui remettent un collier, je crois, il me semble, ils lui remettent pas un collier style bah, chef de la tribu désormais.
Ah ça y est,
c'est, ça se finit pas, c'est pas comme ça que ça se finit,
si c'est possible, je sais pas, j'ai l'impression que j'ai pas vu cette séquence, donc je te laisse le fin mot de l'histoire sur ce finish.
C'est ça, en fait, il me semble qu'ils sont à l'entrée, en fait, à la sortie plutôt de la Gorilla Position, et puis ils attendent Roman, en fait, qui remonte la rampe, et puis qui va les serrer dans ses bras, et qui récupère un collier à ce moment-là, il me semble.
J'ai oublié de mentionner qu'il avait chialé quand même à un moment donné, Roman Reigns.
Oui.
Il fait semblant d'être éploré, voilà, il dit non, c'est vous qui me forcez à faire ça, je sais plus où j'en suis, avant de retaper de plus belle sur Jimmy. Bel moment Acteur Studio. Bon, qu'est-ce que tu as pensé de toute cette séquence? C'est plus une séquence qu'un match, enfin, je sais pas.
Oui, c'était, il y a tellement de storyline là-dedans, tellement d'arrivées, de venues, de je pleure, du je te parle. Ils ont parlé tout le match, en fait. Hein, et c'était patati patata. Oui, mais pourquoi tu ne vas pas rejoindre mon clan? Eh, vas-y. Roman, avec sa voix de cassé, là, maintenant, c'est. Ouais, c'était comme tu dis, Paul Heyman dans les finishers, mais c'était aussi Paul Heyman dans l'overbooking, j'ai l'impression. Parce que là, on a un deuxième arbitre qui arrive, puis tous les officiels, puis Jimmy, puis Roman qui pleure, et puis Roman qui étrangle Jimmy, et puis ici et ça. Je pense qu'il y en avait un poil trop. Finalement, en fait, je pense qu'il pouvait se contenter du deuxième arbitre qui ouvre la cage et qui, du coup, permet à Jimmy d'entrer dedans. Sans avoir besoin d'avoir 12 000 officiels qui se ramènent aussi, puis qui nous fassent croire à un moment à un no contest. Alors là, ça aurait été un désastre que ça se finisse en no contest, cette affaire-là. Quoi. Ils ont bien rattrapé le coup avec Jimmy qui ramène sa tronche pour se faire soumettre et du coup faire abandonner son frère. C'est de la grosse ficelle, mais heureusement, ça aurait pu être une catastrophe. Mais du coup, ils sauvent bien le coup. Je pense que de son pronom, on avait tous voté pour Roman en se disant, il y a aucune chance qu'il perde la ceinture, et puis on va attendre la suite maintenant avec les deux frères qui vont être forcés de rejoindre son clan. J'attends la suite du coup. 29 minutes le match, effectivement, c'était en même temps avec toutes les interventions, ça m'étonne pas que ça dure si longtemps.
Ouais, moi je me souviens qu'il y avait bien trois quarts d'heure quand ça s'est terminé. Terminé, si on rajoute toutes les séquences vidéo, hein, les packages vidéo qu'il y avait avant le match, Et puis tout le finish, je crois que 29 minutes, ça doit être juste le déroulé du match. Ce qui se passe avant et après, ils ne le comptent pas. Et, moi, je crois qu'on était bien à trois quarts d'heure. Quasiment une heure, rien que sur toute cette séquence, quoi. Tout ce match.
Ouais, et, c'est fort probable, ouais.
Tout cet opener, on va dire. Oui, bah, comme tu dis, peut-être un peu too much, mais la fin est logique. On se souvient que l'année dernière, quand même, le Hell in a Cell, si je ne dis pas de bêtises, c'était avec The Fiend. Et le finish qui s'était terminé en match stoppé quoi, hein, par l'arbitre, qui nous avait tous laissé un peu perplexes, pour être poli. Yes. Là, au moins, on a une histoire qui se termine correctement. C'est prévisible, mais au moins, c'est logique, on va dire. C'est cohérent, comme les gens disent. Hein. Ils aiment bien la cohérence.
Exactement. On n'a pas de quoi se claquer la tête contre le mur.
Voilà. Voilà, on va pas s'arracher les cheveux. Et puis, bon, Roman Reigns, quand même, il assure bien.
On peut dire. Ah oui, non, mais il est parfait dans son personnage. Hein. Ça, il n'y a pas à sourciller.
C'est reconstruit, c'est redéfini. Et il est super intéressant. Et super impressionnant. Bon, on va avancer. Elias affronte Jeff Hardy. On se souvient que Jeff Hardy avait été accusé d'avoir écrasé Elias avec sa voiture. On pense quand même que c'est Sheamus qui a fait le coup. Mais bon, il n'y a pas de preuve de tout ça, hein, donc personne ne sera jamais condamné. Elias, lui, il pense toujours que c'est Jeff Hardy, donc il l'a attaqué la semaine dernière pour le season's premiere de Raw. Il lui a explosé une guitare dans le dos. Et ben on va régler les comptes ce soir. Elias contre Jeff Hardy. Il y a d'abord la petite performance à la guitare d'Elias, mais il se fout un peu de la gueule de Jeff Hardy en disant que c'est un alcoolo. Il va lui faire regretter d'avoir lâché la bouteille, hein, comme on dit. Et puis là-dessus, il y a Jeff Hardy qui débarque et c'est la bagarre. 7 minutes 50. Bah, c'est un match classique de Jeff Hardy contre Elias. Mais ça se termine alors. Un peu d'overbooking, hein. Elias va essayer de prendre sa guitare pour attaquer Jeff Hardy. Jeff Hardy va le contrer, c'est lui qui va prendre la guitare et l'écraser dans le dos d'Elias et malheureusement se faire disqualifier. Et donc c'est la victoire d'Elias sur disqualification après un match, j'ai envie de dire anecdotique. Je sais pas si toi ça t'a vraiment marqué.
Non, c'était vraiment un match de remplissage avec qui marque en même temps le retour d'Elias. Alors le finish il est chelou parce que du coup finalement c'est Jeff Hardy qui se fait disqualifier avec son coup de guitare. Bon, moi ça me fait un point au prono, donc c'est sympa, merci le finish.
Voilà.
Mais sinon c'était vraiment sans intérêt particulier quoi. Là c'était un match de transition on va dire.
Ouais, c'est ça. Bon, il faut comme tu dis, c'est pour réintroduire Elias. Jeff Hardy c'est un peu le bon client. Et voilà, on parle souvent aussi de problèmes de booking sur le long terme. Là, on a un beau booking sur le long terme, hein, puisque ça a démarré il y a quelques mois maintenant. Hein, l'accident de voiture. C'est plutôt pas assez pareil, c'est cohérent, ça se tient. Après, c'est sûr qu'avec Elias, on n'a jamais des gros matchs. Hein. Donc, ça passe le temps. Puis, c'était ce qu'il fallait derrière les gros événements de l'opener. Hein. Il fallait se calmer un petit peu.
C'est ça. Puis en plus, il y a d'autres gros événements qui vont arriver derrière. Donc, c'est peut-être un moment important de faire la petite respiration quand même.
Voilà, c'est ça. On pourrait qualifier ce match de pause pipi, hein, presque. Otis fait une petite interview avec Braxton. Kelly Braxton, je sais pas. Il est fâché contre le Miz, hein, en tout cas. On sait que le Miz, grâce à un procès en bonne et due forme, a gagné le droit d'affronter Otis pour le gain de la manette Money in the Bank, le contrat Money in the Bank. Et c'est le Miz, c'est ce soir que ça va jouer. Le Miz, accompagné de John Morrison, affronte Otis. Otis est accompagné de Tucker Knight, comme on l'appelait dans le temps. Donc, ça se fout sur la gueule gaiement. Il y a un joli big boot du Miz dans la face de Otis qui va tenter aussi son caterpillar, mais évidemment il y a les interventions de John Morrison qui va à un moment donné va être à deux doigts de mettre un coup de mallette dans la tête de Otis dans le dos de l'arbitre, mais il est bloqué. Donc là à un moment donné il y a Otis qui va tenter une espèce de soumission sur le Miz et c'est alors que gros rebondissement, puisque c'est Tucker qui va attaquer Otis, lui mettre une patate, et permettre au Miz de gagner le match. Oui, le Miz a gagné, c'est lui maintenant, Money in the Bank. Otis a été trahi par son bon compain Tucker. Je sais pas s'il y a eu, je crois qu'il n'y a pas eu de prise de soumission, ça j'invente, mais en tout cas, trahison de Tucker sur Otis, défaite d'Otis qui perd sa manette durement gagnée. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Qu'est-ce que tu as pensé de ce rebondissement inattendu?
Un rebondissement inattendu, effectivement. Alors, inattendu, mais à la fois attendu, parce que je pense que beaucoup de gens attendaient et espéraient secrètement, voire même ouvertement, chaque nuit que Otis perde la mallette. Oui, parce que. Bon, alors, le in-ring n'a pas d'intérêt. En tout cas pour moi. De toute façon, Otis, malheureusement, n'a pas un catch qui fonctionne. En huis clos, je trouve, parce qu'il il fait que des prises pour agir avec le public. Alors sans public, ça sert plus à grand chose.
C'est ça.
Et donc, on avait un porteur de mallette qui était plus intéressant, qui en plus a eu un push qui était complètement arrêté puis redémarré à l'arrache alors qu'il était au fond du trou. Donc c'était devenu, je pense, une situation intenable pour Otis. Il y avait deux solutions, soit le faire cacher n'importe comment et le faire planter, soit lui faire perdre la mallette. La solution de faire perdre la mallette, pour moi, c'était la meilleure parce que déjà, ça permet de raconter l'histoire. Ça permet de raconter l'histoire pour deux personnes, minimum. Donc, le mec qui la permet et le mec qui va la récupérer. Là, en plus, ça va jouer sur la corde de Tucker qui trahit en mode big cass. Je pense que beaucoup de personnes l'ont relevé, que ça rappelait grandement le turn du big cass, mais en espérant bien sûr qu'une meilleure suite pour Tucker, parce que le pauvre big cass, entre les blessures et puis sa débilité profonde, c'était un peu compliqué. Et donc voilà, c'est un grand événement dans cette soirée, ce changement de porteur de mallette. J'attends de voir la suite, et puis j'espère aussi que ça permettra à Otis de relancer quelque chose. En mode, justement, il a la nuit mortelle avec Tucker. Et puis, il faut qu'il se reconstruise, ce garçon-là. Il faut qu'il fasse quelque chose. Je ne jette pas la poubelle, mais là, vraiment, il faut construire quelque chose pour Otis.
Construisons quelque chose pour Otis. Alors, il y a une séquence derrière, dans les backstage, où le Miz pavane avec sa mallette accompagné de Morrison. Ils se font attaquer par Otis, il y a Tucker qui est là aussi, qui se fait attaquer par Otis précisément. Tucker qui a dit il est rien sans moi, Otis, je l'ai toujours aidé. Alors, il explique que c'est lui qui était derrière certains trucs qui se sont passés dans les semaines qui se sont déroulées à SmackDown. Mais ça se fout quand même un petit peu sur la gueule, il se fait un peu tabasser par Otis avant de fuir. Donc comme tu dis, effectivement, c'est plutôt bien joué, hein, c'était la meilleure solution, hein, moi je suis d'accord, de faire perdre Otis là-dessus. Trahison de Tucker, je pense qu'il y a des choses à faire avec Tucker qui est quand même un bon catcheur, un bon gros bébé. Je pense qu'il a repackagé, ça peut donner quelque chose. On espère que ça sera...
Pas mal de gros micro en plus. Hein.
Ouais, pas mauvais au micro. Ça m'a l'air d'être un gars solide. Espérons qu'il ait une meilleure carrière qu'un Chad Gaspard ou un Big Cass qui avait fait des turns un petit peu similaires. Feu Chad Gaspard, hein, paix à son âme.
Ah oui, c'est vrai.
Tout ça plutôt bien joué. Encore une fois de la cohérence, encore une fois de la logique. Tout ça c'est plutôt bien déroulé. Puis c'est super cool d'avoir le Miz qui est la mallette. Hein. C'est un très bon porteur de mallette, le Miz. Mine de rien.
Ah oui, il va pouvoir faire chier le monde.
C'est ça. Celui qui est un peu blousé dans l'histoire, c'est John Morrison. Hein. Il a l'air de s'éclater à faire le gogol avec le Miz, mais. Pour Morrison.
À un moment, je m'étais dit, est-ce qu'ils ne vont pas justement se servir du Miz et justement de faire une restitution à la con, genre 2 contre 1, et que du coup, Morrison récupère la mettre à la place du Miz, ça aurait été marrant aussi.
Ouais.
Mais oui, si, comme tu le dis, visiblement, faire le con, ça lui suffit pour l'instant. Bon, après, il y a vraiment une bonne tête de débile, hein, Morrison. Ça...
C'est vrai, on n'avait jamais calé hein, jusqu'ici, mais depuis ces derniers mois, on voit que ça lui va bien.
Voilà, bon débile profond.
Sa gimmick de bas du plafond. Là. À la suite, on verra qu'est-ce qui va arriver à Otis, qu'est-ce qui va arriver à Tucker, ça laisse plein de pistes. Hein. Et puis le Miz, hein, qui va bien finir par cacher, il y a de fortes chances qu'il redevienne champion, hein, le Miz. Hein. Ça serait pas mal.
Ouais, alors après, est-ce que du coup, pour... ouais, je sais pas, parce que quelque part, là, si tu veux que l'histoire se termine entre guillemets bien pour lui, t'as peut-être intérêt à lui faire perdre le cash-in pour dire, bah voilà, t'as volé la mallette, mais tu t'en sortiras pas si bon compte. Moi, je pense que ça se finira comme ça. Bah, à voir, bien sûr, dans les. Si ça se trouve, ils vont oublier
Open
totalement
moral.
dans les prochaines semaines et
Oui, c'est
effectivement, ce sera un
possible.
cash-in classique.
Ça. Bah, le Miz, il a toujours sa télé-réalité, donc il est assez connu, il est assez populaire. Il a toujours visé la ceinture suprême et le spotlight. Hein, le Miz, il croit toujours. Hein, donc, je pense qu'il. S'il a joué le gogol depuis des mois, c'était aussi peut-être parce qu'il avait le droit à une petite carotte à l'arrivée. Donc ça, on verra dans les semaines qui viennent, mais en tout cas, c'est assez enthousiasmant, hein, toute cette histoire. Et maintenant, on arrive à quelque chose d'encore plus spectaculaire, puisque c'est le match Hell in a Cell entre Sasha Banks et Bayley. Bayley est la championne de SmackDown, et elle défend son titre contre Sasha Banks. On se souvient de l'énorme trahison de Bayley sur Sasha. Elle l'avait attaqué à coups de chaise, elle lui avait plié la nuque, mais Sasha est revenue pour se venger et ça va se régler dans la cage. On nous apprend quand même qu'elle est invaincue dans le Hell in a Cell, Sasha Banks. Je crois qu'elle avait affronté Charlotte et Becky Lynch, si je dis pas de bêtises,
Elle avait
et
gagné les
qu'elle
deux.
est apparemment
Elle
elle
est
a
invaincue
gagné.
ou alors c'est juste celle qui a participé à tous les NSL. Moi j'ai compris ça comme ça.
Ah,
C'était la
d'accord.
seule fille à participer à tous les NSL.
Ah
Qui
donc, ouais, elle a
forcément,
perdu,
parce
parce
qu'il y en a eu
que
trois.
maintenant que j'y pense, je pense qu'elle a perdu les deux matchs.
Bah, il me semble aussi qu'elle les a perdus, c'est pour ça.
Ouais,
Par contre, elle a
c'est
participé à
ça.
tous.
Bah, bon, écoute, bravo à elle. Ah, je croyais qu'ils étaient en train de monter une streak pour Sasha Banks dans la Hell in a Cell.
Une streak de participation, c'est
Une
déjà
streak
ça.
de participation. donc, du coup, il se passe beaucoup de choses hein, dans ce match. Hein. On va utiliser des tables, des kendo sticks. Il va y avoir des spots très très violents. Il y aura aussi un sunset flip là où elle atterrit dans les chaises Sasha Banks. C'est surtout Sasha Banks qui va morfler pendant tout le match hein, parce que Bayley réussit à prendre l'avantage et c'est surtout Sasha qui va bouffer, bouffer, bouffer. Mais elle va quand même réussir à gagner le match, Sasha, en utilisant encore une fois la chaise, la fameuse chaise qu'elle va mettre autour du cou de Bayley pour lui placer son back statement, sa prise de soumission, en lui tapant sur la gueule avec les pieds là, à deux doigts de lui briser la nuque. Bayley est obligée d'abandonner. Gros gros match de 29 minutes, c'était long, hein, c'était 26 minutes 32 précisément, pardon. Il y a eu énormément de spots. Je vous conseille de regarder ce match quand même, qui était vraiment spectaculaire. Enfin, je ne sais pas ce que tu en as pensé.
Oui.
Je pense qu'elles ont rendu une bien belle copie, les deux. On s'attendait de toute façon à un match énorme. C'est dommage qu'il n'y ait pas de public. Il y a eu des utilisations d'extincteurs, hein, de bombes, de peintures, etc. Bien belle copie qui a été rendue. Sasha Banks victorieuse à l'arraché. Là, elles se sont entretuées, les deux. Moi, j'ai été comblé par ce match.
Ah bah je te rejoins grandement. Beaucoup de kendo stick aussi, et j'ai trouvé qu'ils avaient tenté des trucs vraiment originaux, notamment Sacha, qui, alors je la trouve très très bien dans le NECL, tu vois. Même s'ils n'avaient pas dit que c'était la reine des NECL, de toute façon, moi je l'associe à ce type de stipulation, en fait, Sacha. Je la vois vraiment dans le. Dans la cage, ça, et celle-là, c'est pour moi, il fera partie des matchs marquants de cette stipulation. Alors le Sacha Becky, j'ai pas trop de souvenirs. Par contre, le Sacha Charlotte, j'avais beaucoup de souvenirs de ce match-là,
Ouais,
j'avais
moi
trouvé
aussi.
excellent aussi. Et bah là, je le trouve dans la lignée en fait, avec énormément d'inventivité. C'est les coups de genoux de Sacha, c'est les Meteora, c'est ça? Je
Ouais,
sais
c'est ça.
plus.
Meteora, ils appellent ça,
Meteora, elle en a fait partout, ça, contre la cage, dans le coin, contre des chaises. Et ça, elle en a vraiment envoyé. À chaque fois, elle trouvait une nouvelle position pour le faire. Bon, il y a eu un petit, le seul point, hein, celle-ci, il fallait c'est un petit point raté dans le match. Mais c'est vraiment mineur parce ils ont bien rebondi dessus. C'est quand Bayley a essayé d'attacher deux kendo sticks bout à bout pour faire une espèce de séparation, je sais pas ce qu'elle voulait faire. Elle s'est plantée, ça, c'était foireux. Elle a réussi à rebondir dessus en demandant de l'aide à l'arbitre. Et l'arbitre qui lui disait, mais non, mais je suis pas là pour t'aider à monter tes pièges. Mais il est... En plus, elle n'arrivait pas à enlever le scotch, le Chatterton, là, une belle erreur. Ah, mais il n'arrive pas à l'ouvrir ce truc. Et t'avais les commentateurs qui se foutaient aussi de sa gueule en disant, mais elle est inventive, et là, on se demande ce qu'elle fait. Enfin, je trouvais qu'ils s'étaient foirés, mais ils ont bien rattrapé le coup. Du coup,
Ouais,
c'est.
elle a su improviser comme il fallait, ouais.
Voilà, c'est ça. Donc, ça fait pas tâche, du coup. Et tout le reste, moi, je trouve ça nickel. Franchement, je vais le dire tout de suite, moi, dans les trois NSL, c'est largement, très largement celui-là que j'ai préféré. Détroit, il était nickel de bout en bout. En plus, stipulation LNECL pour deux filles qui se détestent autant à l'écran, c'est parfait. Changement de titre après NBL qui a le titre pendant un an, c'est parfait. C'est pareil, c'est parfait cette stipulation. Enfin, je ne vois pas ce qu'on peut reprocher à ce match-là. Alors peut-être des longueurs, mais j'ai même pas moi. Enfin moi, en tout cas, il m'a pas semblé si long que ça parce que c'était haletant en fait à se dire laquelle des deux teignes en plus qui se foutait sur la gueule. À jamais vouloir abandonner, jamais vouloir en finir. Et puis, bah voilà, c'est Sacha qui remporte une grosse victoire pour elle. Je suis content pour elle. Et puis, bravo les filles. Depuis le temps que je disais, il faut qu'elles arrêtent de parler, qu'elles se tapent sur la gueule, bah, elles se sont tapées sur la gueule. Elles l'ont bien fait.
Ouais, c'était leur année, hein, aux deux, j'ai envie de dire. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'était de loin le LINESL le plus spectaculaire de la soirée. Le Sacha Banks, Becky Lynch, ce que je me souviens, c'est qu'il était aussi vachement bien, mais qu'il a été éclipsé par le match avec The Fiend, qui a eu ce final
Ah.
catastrophique. Et du coup, on ne s'en souvient plus. Mais je me souviens que c'était un très très bon match aussi. Et là encore, voilà, elle marque le coup. C'est pas pour rien que moi je dis depuis des années maintenant que Sacha Banks, c'est la meilleure catcheuse du monde. Et Bayley, elle est à un très très haut niveau aussi. Bon, généralement, quand elles sont face à face, ça donne du très très beau match. Là, c'était spécial, c'était un LINESL, mais du coup, elles ont vraiment utilisé la stipulation. Comme tu dis, elles ont inventé des trucs, elles ont été stiff, elles ont été violentes. On avait peur pour elles. Le selling de Sacha Banks, il est incroyable. Et puis Bailey, elle est versatile, elle sait tout faire dans le ring. Non, je crois que ça va être un de mes matchs de l'année, hein, concrètement, ce match-là. J'ai
Je te
vraiment
rejoins.
beaucoup de mal avec les matchs sans public, mais là, pour le coup, j'étais vraiment dedans du début à la fin. Et je dis chapeau, non, vraiment, surtout moi qui suis en plus pas fan du catch féminin. Quand c'est Bailey et Sacha, moi je peux que m'agenouiller et admirer le travail. Hein. Il y a vraiment un très très haut niveau avec ces deux filles-là.
C'est partie des matchs qui me font oublier qu'il n'y a pas de public, quoi. Tu vois,
Ouais, c'est ça. Pour le coup, on
j'étais
était.
dans la cage avec elle, à la regarder, se foutre dessus. Du coup, ceux qui ne regardent pas parce qu'il n'y a pas de public, je pense notamment à Giscal, n'hésitez pas, ce match-là, nous fait oublier qu'il n'y a pas de public.
C'est ça. Voilà, ce sera un match qui restera un petit peu dans les mémoires, celui-là, je pense. Et
Yes.
d'ailleurs, toute la rivalité, hein, qui Sacha, Bailey Sacha, pardon. Allez, voilà, c'était très bon, mais il faut qu'on avance. Et ben on va rester dans les backstage. Charlie Caruso discute avec MVP. C'est l'interview. Qui va représenter le Hurt Business face à Retribution? Ben, ils prennent pas de risque, hein, ils envoient
Lashley.
à Lashley, Bobby Lashley, et il va affronter Slapjack. Slapjack, parce que je crois qu'ils avaient le droit de choisir l'adversaire.
C'est ça, ils pouvaient choisir qui ils envoyaient du Hurt Business et choisir en plus qui ils affrontaient de Retribution.
C'est ça. Et Shelton Benjamin suggère d'affronter le gars avec le masque rigolo. Donc, on ne sait pas de qui il
Mais...
parle, vu qu'ils sont tous à masque
Il a dû
rigolo.
préciser du coup derrière.
Voilà, donc il a dit c'est Slapjack. Slapjack, c'est Shane Thorne, en vérité, l'ancien membre de Team 6-1.
C'est 6-1.
6-1, The Mighty Don't Kneel, comme on les appelait à la Noah au Japon. Donc, bah, il y a le match, hein, Bobby Lashley qui affronte Slapjack pour le titre US en plus. Hein, le titre US est en jeu. Un match énorme de 3 minutes 51. Où Slapjack va faire ce qu'il peut, hein, des jumping DDT, un cannonball dans le coin, mais évidemment Bobby Lashley est trop fort, il va le défoncer, lui placer sa full Nelson, le Hurt Lock, et Slapjack est obligé d'abandonner. Et là-dessus, direct, hein, il y a Retribution qui débarque, T-Bar, Mace, la Mustafa Ali qui se font défoncer. Alors, T-Bar et Mace, ils se font direct défoncer par Lashley. Ali veut rentrer dans le ring, mais ben, quand il voit que c'est trop tard parce qu'il y a le reste du Hurt Business qui débarque, ben, il s'en va. Miyahim est là aussi, avec des vêtements trop courts pour elle, malheureusement. Ali bat en retraite. Hein, et c'est un petit peu la grosse victoire du Hurt Business.
Ouais, grosse victoire, tu t'enflammes, hein, parce que Retribution, c'est... je pense qu'on devrait les appeler Payasson ou je sais pas quoi, mais ça ressemble de plus en plus à une équipe de tocards.
Ouais, tocards.
C'est commence bah, vraiment à être compliqué pour eux.
Ça démarre doucement. Hein, c'est pas... Ils font pas la razzia tout de suite. C'est un diesel. Bon, match 3 minutes 51, quoi. Il est pas mauvais, hein, Slapjack, comme on l'appelle maintenant. C'est plutôt un catcheur complet, hein, le bon vieux Shane Thorne, mais...
Mais il est pas mauvais, mais en fait, c'est le souci, c'est que t'y crois absolument pas, quoi. C'est ça qui
est terrible. Ah oui, y a aucune chance qu'il puisse battre Bobby Lashley. Et puis, il doit galérer, il a l'air de galérer avec son masque, là. Il devrait leur permettre de l'enlever, hein. Tu mets un maquillage en dessous, façon Goldust, là, et puis... C'est bien, mais parce que le mec, ça se voit qu'il galère, il doit pas voir grand chose.
Ouais, déjà que remettre.
C'est ça. Puis je soupçonne Bobby Lashley d'être un peu myope, donc des fois c'est un petit peu.
Elle devait se chercher du coup.
C'est ça. voilà, donc Ali, c'est pas encore son dimanche, hein, pour lui.
Mais moi, Retribution, c'est triste, hein, mais du coup, ce match-là, dans le genre. Pas attendu du tout, on te dit alors attends, tu vois Retribution, là, le groupe là, qui perd tous ses matchs, bah, on va prendre le plus mauvais et on va le mettre face au plus fort et voilà. Pour le titre US, wow, accrochez-vous les gars,
le suspense c'était à zéro.
Bon,
après je crois que le Hurt Business il perdait un petit peu aussi au début, non?
Bah, contre Retribution, depuis que Retribution s'est dévoilé avec Ali,
Là, par contre, il y a tout le temps.
Ils font plus les massacrer, quoi.
Oui, non, mais au tout début de Hurt Business, quand il n'y avait pas
encore. Quand ils étaient 50.
Ouais.
Mais maintenant qu'ils sont plus que 4.
Non, mais avant qu'ils soient en guerre avec le Hurt Business, avec Retribution, quand ils ont démarré le Hurt Business ensemble, les premiers matchs.
Ah oui, ils perdaient contre des Ricochets
et autres
comiques. Et par contre, ils peuvent pas battre. Il massacre Retribution, quoi.
Non, mais je veux dire, c'est peut-être le même sort de démarrage entre Retribution et Hurt Business.
Ah oui, d'accord, je sais ce que tu veux dire.
D'ici 2-3 semaines, tu vois ce que je veux dire.
Ouais, sauf que le souci, c'est que Retribution. Ouais, bon, à voir. voilà, on sait pas qui c'est. Le Hurt Business, encore, ils avaient des segments micro assez marquants. Ils avaient comme déboulé à feu Underground aussi. Hein. On a beaucoup de feu.
Ah ouais, ils avaient défoncé.
Ils avaient défoncé tout le monde. Enfin, ils avaient comme quelques passages marquants avec Retribution. Depuis l'arrivée d'Ali, c'est désillusion sur désillusion. Je comprends pas. Ils perdent tout. En fait, c'est ça qui est terrible. C'est qu'ils ont, je pense, aucune victoire là pour l'instant depuis qu'ils sont officialisés Retribution.
Ouais, comme tu dis, des tocards. Très bon micro MVP, encore une fois, hein, dans sa petite promo. J'attends d'en voir plus.
Ouais, il tient le truc tout seul. Ouais. Parce que vu qu'il n'a pas d'opposition, bah, il est obligé de faire à la fois le mec qui gagne et puis vendre Retribution malgré eux.
C'est ça, parce qu'en plus, c'est avec Bobby Lashley, Shelton Benjamin Carlton.
Alexander.
Voilà, Alexander. Il n'y a personne pour l'aider au micro, donc...
Ah oui, non, c'est les trois muets, là.
Voilà, beau boulot de MVP. Allez, bah c'est déjà l'heure du main event, hein, figure-toi. On avait dit qu'il n'y avait pas beaucoup de matchs.
Youhou !
Alors, c'est pas n'importe quoi. Hein. Drew McIntyre, le champion WWE, affronte Randy Orton pour la troisième, quatrième fois. La dernière fois, c'était le match de l'ambulance. Une spécialité de Randy Orton qui a été gagnée par Drew McIntyre. Et ce soir, on va régler les comptes une dernière fois. Hell in a Cell. Randy Orton a défoncé toutes les légendes qui avaient parasité son match de l'ambulance contre Drew McIntyre. Hein, les Ric Flair, les Shawn Michaels, les Christian. Tout ça, il leur a réglé.
Big Show.
Le Big Show aussi. Hein. Voilà, un petit piège, hein, dans les backstage où ça joue au poker. Voilà, mais ce soir, ça va être le tout pour le tout. Alors Drew McIntyre arrive au ring, il est attaqué tout de suite par Randy Orton qui était déguisé en caméraman qui arrive par derrière, mais Drew McIntyre esquive, il réussit quand même à prendre l'avantage. Ça se fout sur la gueule, on va utiliser des chaises, on va attaquer la mâchoire de McIntyre hein, qui avait été brisée par Randy Orton il y a quelques semaines. On va s'exploser sur les tables. On va encore être super violent, hein. On va utiliser les escaliers. Mais surtout, on va grimper en haut de la cage. Hein, Orton va sortir la pince coupante géante pour couper le cadenas. On va régler les comptes tout en haut de la cage. On se fout sur la gueule. Et dans la redescente, c'est la chute de Drew McIntyre qui s'écrase sur la table des commentateurs. Alors, pas du haut de la cage, mais du côté. Mais quand même une chute impressionnante. Hein, parce qu'il est. C'est quand même un super heavyweight, hein, Drew McIntyre. Donc, un gros bébé comme ça qui tombe sur la table des commentateurs. Coup, hein. Ça fait peur. Et puis, sa tête, elle est passée pas loin de la partie verticale de la table. Là. Donc là, il n'arrivera pas trop à s'en remettre, hein, Drew McIntyre. Il va se traîner jusqu'à l'intérieur de la cage, suivi par Orton qui se pavane. Tout ça va se finir au milieu du ring. Drew McIntyre esquive le RKO, esquive sur esquive sur esquive. Il va placer un Claymore Kick, mais ça suffira pas parce que Randy Orton va rouler à l'extérieur du ring. On va repartir de plus belle. Mais finalement, sur une tentative de Claymore, Orton va esquiver et placer le RKO final qui va lui permettre la victoire. 1, 2, 3. Nouveau champion, Randy Orton. McIntyre terrassé qui aura morflé du sang dans la bouche. Hein, visiblement, la chute lui a fait très très mal. Un match quand même impressionnant hein, pour ces deux grosses baraques. C'était quand même assez violent. C'est un, diront peut-être un peu mou. Ça va, j'ai été plutôt satisfait de la confrontation entre Orton et McIntyre. Et donc, Randy Orton, nouveau champion. À la surprise quasi générale, sauf de ceux qui s'y attendaient, évidemment.
Exactement, comme moi. Moi, j'avais parié sur Orton. Je sentais que c'était le moment pour Orton de reprendre le titre. Oui. Et d'offrir peut-être une opposition heel à tous les faces qui en veulent. Alors moi, je fais partie des gens qui ont un peu de mal qui ont eu du mal à entrer dans le match. Comme je disais tout à l'heure, j'étais bien pris par l'émotion du match Sasha Bailey. Et du coup, ce match-là qui a démarré en mode un peu, alors même si Orton a attaqué direct, j'ai trouvé comme qu'il était un peu diesel par moment, ce match-là. En même temps, c'est deux gros balourds là qui se foutent sur la tronche, donc c'était pas forcément aussi vif que deux jeunes femmes comme on a pu voir précédemment. J'ai pas réussi à rentrer dans le match et j'ai pas, malheureusement ils ont pas réussi à me faire rentrer dans le match. Même le petit passage j'ai trouvé ça super long aussi quand ils sont montés en haut de l'échelle de la cage, traverser la cage, redescendre de l'autre côté, tous ces passages-là, j'ai eu du mal à vraiment rentrer dedans, peut-être parce que j'étais usé émotionnellement, donc j'ai pas eu de ressort pour m'intéresser à ce match-là. Donc voilà, je trouve par contre un petit note que je m'étais déjà fait auparavant, je trouve que Drew McIntyre scelle pas très bien le RKO, il le fait toujours à moitié en se mettant à genoux, donc je pense peut-être parce qu'il est trop assez souple des genoux peut-être pour prendre un RKO comme il faut, mais là il le prend encore une fois à moitié à genoux, à moitié de côté. Bon, après voilà, c'est du je pinaille hein, parce que y a rien à dire sinon sur le reste du match techniquement des deux bonhommes. Mais voilà, j'ai malheureusement pas réussi à rentrer dedans. Par contre, je suis impatient de voir ce que ça donnait Orton champion parce que ça réouvre toutes les portes qui étaient fermées de Drew qui étalait tout le monde en fait. Mais bon, alors, par contre, est-ce que c'était le moment de faire passer Orton champion alors que quelques semaines avant il se faisait massacrer par Keith Lee, je sais pas, je pense qu'on va miser sur le fait que le public oublie rapidement que Orton s'est fait atomiser il y a peu de temps. Et puis on saura ressortir à la carte quand Keith Lee sera prêt pour aller dans le main event, je pense.
Ouais, possible. C'est vrai que c'est un peu sec au niveau des babyface, hein, Euro. Ça, je pense que vous aurez l'occasion d'en reparler dans les weekly, hein, dans les analyses qu'on toutes les semaines de Monday Nitro de catch-up. Mais effectivement, c'est intéressant effectivement de revoir Orton champion. On espérait à un moment donné, puisque c'était le seul qui était assez crédible pour devenir champion, hormis McIntyre. Le timing est un peu bizarre parce qu'effectivement, c'est le troisième match. Jusqu'ici, il a toujours perdu, Orton. Maintenant, c'est vrai qu'il y avait eu des interventions des légendes dans le match de l'ambulance.
Et puis celui-là, c'est un roll-up. Donc, l'un dans l'autre, il n'est jamais vraiment perdu vraiment clean.
Terrassé, quoi.
Mais par contre, c'était fait terrassé par Kisly.
C'était fait même squashé, on peut dire, hein, presque. Oui. Donc effectivement, il y a de fortes chances qu'on voit Kifli dans les prochaines semaines s'attaquer à Orton. Parce que le porteur de maillot, c'est le Miz. C'est un heel aussi. Donc, même si il avait caché à l'époque sur Orton lui-même pour devenir champion, oui. Le Miz, et qui apparemment il joue sur la corde à Monday Night Raw, sur le fait que ça peut très bien se reproduire. Il faudrait quand même faire affronter un beau babyface. Il y aura peut-être le retour de Edge aussi.
Moi j'ai misé là-dessus, c'est pour ça que j'avais misé sur Orton.
Ouais.
C'était en me disant je pense que Edge vont vouloir lui filer un titre, sauf s'il est vraiment cuit complet, mais je pense qu'ils vont vouloir lui remettre un titre pour valider entre guillemets son retour. Et donc c'est pour ça que je me dis, si Edge est sur le point de revenir, parce que sa blessure, c'est à peu près la même que Mysterio. Il me semble que Mysterio est aussi sur le point de revenir. Du coup, fallait le redonner le titre à Orton pour faire gagner Edge. Après, on peut avoir une surprise et McIntyre qui reprend le titre à TLC ou une connerie comme ça. Hein.
Oui, c'est pas impossible non plus. Mais alors, on suppute dans les milieux autorisés qu'en fait, il souhaiterait faire gagner le titre à McIntyre devant un public pour avoir un peu d'émotion, pour vraiment l'asseoir comme un... Oui. Comme un vrai main eventer, mais bon, c'est tirer un petit peu des plans sur la comète. C'est pas pour tout de suite, hein, je pense.
Après, je sais pas comment ça se passe aux États-Unis. C'est peut-être un peu plus en train de se rouvrir que chez nous, mais effectivement, on n'en prend pas le chemin tout de suite. Hein, du moins, un grand public comme on l'a connu à la grande époque.
Ouais, qu'il le fasse comme au Japon. Hein. Là, il y a le G1 Climax qui vient de se terminer. Il y avait du public avec les mesures barrières, les masques, une place entre chaque personne. Ça fonctionnait très très bien, hein. Donc inspirez-vous de ça un petit peu, les Américains.
Voilà.
Parce que le rayon écran plat du Carrefour là, ou de Boulanger, c'est bien, mais c'est un peu triste quand même. Et si on donnait les avis un petit peu de nos collègues.
Vas-y, fais-toi plaisir.
Avant de passer au mot de la fin. Alors, qu'est-ce qu'on a comme avis? C'est sur Hell in a Cell. Raphaël, hein, qui a des problèmes techniques à l'heure actuelle, qui reviendra bientôt. Tous les matchs en cage étaient trop longs. Alors tous, sans exception. La carte était très bizarre, pas assez de matchs, et le reste était à laisser en weekly. C'est dur, ça. Le match de Jeff Hardy avait rien à foutre là, effectivement. Idem pour celui de Lashley. C'est pas faux. Le changement de mallette, c'est un événement énorme. Il aurait largement mérité d'être le main event d'un SmackDown avec un fil rouge tout au long de l'émission autour de ça pour un climax final. Ouais, mais ça aurait pas laissé grand-chose dans la carte d'Hell in a Cell.
Oui, si t'enlèves tout.
Voilà. Reigns a été un très bon comédien, très émouvant, mais on n'a pas vu de catch dans ce match, effectivement. Et ça ressemblait beaucoup à leur précédent affrontement, sauf qu'on n'a jamais cru que j'étais capable d'y arriver. Bah, un peu comme précédemment. Quand j'ai vu arriver tous les officiels, j'ai vraiment cru qu'on allait vers un autre Hell in a Cell finissant sur un no contest comme la merde de l'an dernier. D'ailleurs, normalement, un I quit match, il n'y a pas un micro. Ah oui, là, il n'y a pas besoin parce qu'il n'y a pas de public. De mémoire, si. Bref, j'ai eu l'émotion, j'ai vu l'intensité, mais tout ça était un peu brouillon pour au final un résultat prévisible. Bayley versus Banks, un peu long aussi. On s'en souviendra pas dans un an, mais victoire logique et fin de règne légitime. Je ne suis pas d'accord. Drew versus Sorton, incompréhensible passage de sortie de la cage, monter sur le toit pour une minute, tout ça pour une chute finale. Certes, j'étais favorable que ce run heel incroyable d'Orton se finisse sur une prise de titre et dans une stipu pareille, c'est logique. Chapeau à Drew, qui même en perdant, reste magnifique. Le top pour lui, Drew McIntyre pour l'ensemble de ce règne, pour être peut-être le plus beau règne de ma carrière de suiveur de la WWE. Bah, dis donc. Oui. Plus beau règne en plein confinement, Raphaël. Je ne suis pas trop d'accord. Le traitement du Money in the Bank, c'est son flop. Hein. Tout était balourd. On a vu Tucker se positionner la mallette 1000 ans avant. C'était mal exécuté et téléphoné. Ça se passe pas le bonsoir en plus. Première fois qu'une mallette change de main depuis 10 ans. Le Miz, premier double détenteur depuis CM Punk. Il fallait plus d'emphase là-dessus. J'espère un cash-in sur Orton. C'était déjà la configuration pour le premier titre WWE du Miz. Note 2,25. Il s'est passé beaucoup de choses et pourtant, on n'a pas l'impression d'avoir vu un grand PPV. Pay-per-view. L'avis de Tonton Chris. C'est long alors qu'il y avait 5 matchs. Une sorte de takeover, en fait. Top, le Miz. Alors, c'est jamais long, un takeover. Top, le Miz qui chope la mallette. Enfin, allez, on passe à une autre chose maintenant. Et le flop, c'est Elias contre Hardy. Zéro intérêt, zéro enthousiasme, pause pipi. Une note de 2. C'était vraiment pas terrible. Un pay-per-view de transition, en quelque sorte, malgré la défaite majeure de Drew et la prise de pouvoir de Sacha. Et j'ai l'avis de Papy aussi, mais je vais pas le lire.
Bah oui, je vais le dire moi-même.
Parce que tu vas le dire toi-même. Alors, je vais voir si tu relis ce que tu dis ou si tu vas
improviser. Non, je vais essayer de le faire de tête.
Ils sont un peu déçus, nos collègues, hein, sur ce pay-per-view.
Oui, alors, je partage un peu leur déception, comme je pense que ça puisse ressentir, sur la dernière partie, en fait. C'est-à-dire que moi, j'étais ultra hypé au moment où mon main event perso, c'était le match des filles. Puis après, alors, la Retribution, ça m'a fait retomber dans le jeu m'en foutisme. Et le main event, bah, j'ai pas réussi à raccrocher les wagons, j'ai pas réussi à m'y intéresser. Du coup, bah, je donne mon flop d'ailleurs au main event. Pourquoi ? Non pas parce que c'est un mauvais match, mais c'est parce qu'il a, voilà, il a pas réussi à me rattacher les wagons, à me faire finir sur le plus heureux, sur un bon goût. Voilà, il a pas réussi à me rattraper. Et du coup, je me dis que c'était peut-être pas le match à mettre en main event. Mais en même temps, c'est la fin de règne de Drew, donc c'était particulier. J'aurais quand même mis le match des filles en main event. C'était tellement bon et c'était aussi la fin d'un grand règne. Peut-être même sûrement d'ailleurs plus grand que celui de Drew, le règne de Bailey. Donc, donc voilà, donc j'aurais mis celui-là en main event et je pense que j'aurais fini sur un meilleur goût. Moi, finalement, quand je finis par view, mon premier souvenir quand je reviens en arrière, c'est le match des filles, donc c'est-à-dire une heure avant la fin. Enfin, peut-être pas une heure, mais une demi-heure, trois quarts d'heure, on va dire, avant la fin. Donc c'est qu'il y a un petit souci sur la fin. Mon top, bah, sans surprise, du coup, bah, c'est les filles, hein, les filles qui ont fait un match super et que je pense que je reverrai sans souci, avec grand plaisir. Et ma note, du coup, bah, l'un dans l'autre, je vais mettre la moyenne, je vais mettre 2,5 grâce aux filles. Le match de Roman Reigns, c'était pas mal non plus. Le reste, c'était vraiment dispensable. Donc voilà, donc c'est le match des filles qui sauve la moyenne.
Ok, 2,5, 2,25.
Et toi, Rickside?
Ouais, alors bah, moi, je l'ai vu en plusieurs fois. Hein. J'ai regardé une première partie la nuit, une deuxième partie le lundi et le mardi, bah, ce matin, hein, je crois que j'ai fini par regarder le main event. Donc du coup, le main event, il est bien passé parce que j'étais peut-être pas aussi épuisé que vous qui avez tout regardé d'une traite. Donc du coup, j'ai plutôt bien apprécié le pay-per-view. Maintenant, je l'ai vu de manière un peu tronquée, donc je sais pas si mon avis est pertinent. C'est vrai, en même temps. Le top, je vais faire comme toi, je vais le donner aux filles, hein, je vois pas comment on peut faire autrement. Ça a été vraiment spectaculaire, ce match. Moi, je suis toujours, je suis un fanboy de Sacha Banks, hein, je crois, simplement. Et le flop, j'ai pas envie de le donner au main event parce que j'ai bien aimé le spot de McIntyre sur la table. Qu'est-ce qui m'a pas. Il n'y a pas eu de match féminin à la con. Ouais, on va mettre sur le retour d'Ilias et puis Jeff Hardy. Ce match n'était pas très intéressant. C'est du déjà vu mille fois. Ilias, il a déjà été surexploité. Et Jeff Hardy, il a peut-être autre chose à faire que de le faire affronter Ilias. Donc voilà, je vais mettre 3, moi, au pay-per-view. Je trouvais ça plutôt
cool. Ah, un bon 3 quand même.
Voilà, bah, je trouve que tout est cohérent, tout se déroule bien. Il y a un petit peu de surprise et puis, mais ça, tout reste logique. Moi, j'aime bien quand c'est comme ça. Je suis pas, ça me dérange pas qu'un final soit prévisible. Si c'est cohérent. Je déteste ce mot, mais c'est efficace, quoi, on va dire. Il y a une logique. Voilà, moi je suis en plus tout est bien à sa place. Orton champion, Drew qui va devoir prendre sa revanche, Otis qui perd la mallette, le Miz qui est maintenant le Money in the Bank winner, donc ça c'est super intéressant. Sasha est de nouveau championne, l'ami Roman Reigns il s'impose comme le patron de la famille. Il y a Kirk Retribution qui est un peu dans une position délicate, mais je sens qu'il va se passer quelque chose. Je pense que quand même Ali a un plan et
faut espérer.
On va bien voir ce qu'il se passe, mais c'est sympa aussi de voir le Hurt Business Dominateur et l'Ashley qui est pas prêt de perdre sa ceinture US tout de suite. Et puis il n'y avait pas Ricochet, donc c'est toujours bien.
Ricochet,
j'adore.
Je pense qu'il va maudire le jour où il a dit au World Business, ben, si jamais je vous bats, on n'a plus d'interaction ensemble. Parce que depuis, on va tout le temps au World Business, mais lui, on ne le voit plus jamais. Donc, c'était une nouvelle idée de génie de Ricochet.
Voilà.
Bravo, garçon, continue comme ça. Tu auras une grande carrière, je te l'annonce.
Alors, lui, ils l'ont vu arriver, ils se sont dit, tiens, voilà, ça me plaît. On va tourner en bourrique.
Voilà.
Je pense qu'il doit lui donner tous les pires conseils que tu peux donner. Voilà, on n'a pas pu faire une pirouette depuis 6 mois. Donc ben voilà, hein, ainsi se termine notre analyse de Hell in a Cell. Il faut passer à l'autopromo.
Ah oui, il faut des sous. Hein.
Eh oui, il nous faut des sous. Alors, si vous êtes sur YouTube, que vous nous avez découvert sur YouTube et que vous nous avez écouté jusqu'ici, bah, pensez à vous abonner et mettre un pouce et puis des commentaires. Hein, il nous faut des commentaires pour un peu d'exposition. Bon, on est sur YouTube, on est aussi sur PodCloud, sur Apple Store, enfin un peu partout où vous avez des podcasts, partout. On est aussi sur Facebook, on est sur Instagram, on est sur comment ça s'appelle, Twitter là. Il y a @catchupcdc. Il faut bien prendre la petite cloche pour être averti quand c'est diffusé. Puis voilà, je crois que j'ai fait le tour. On va se retrouver pour l'analyse de Monday Night Raw dans la semaine. Après, il y aura celle de SmackDown. Peut-être une baston du mercredi où on parlera de AEW Dynamite et de NXT, si on a le temps. Ça, c'est pas régulier, mais en même temps, hein, qui s'intéresse à tout ça. Oh, c'est adorable ces trucs de catch à la con là.
Mais non, mais franchement, parfois il y a des trucs sympas, quoi. Me dis pas ça.
C'est vrai. Finn Bellor. Voilà, donc tout ça, bah, vous nous retrouvez dans la semaine. Bon papy, merci beaucoup d'être venu.
Bah, merci Ringside de m'avoir inclus dans ta belle émission de Hell in a Cell.
C'est vrai. Une bien belle émission en effet. Bah, merci surtout d'être venu. Voilà, ben, bah, je pense que tu retrouveras les auditeurs bientôt pour Monday Night Raw. Je sais plus, je voulais dire un truc, mais je crois que j'ai oublié. Voilà, ben. Bah,
vive la République, vive la
France. Vive la République, vive la France, et on est bientôt reconfinés, donc vous aurez que ça à foutre que de nous écouter. Donc on va essayer d'être au rendez-vous. Allez regarder les deux finales du G1 Climax, le final du bloc A, final du bloc B, c'était super. La finale en elle-même n'était pas au rendez-vous, mais le tournoi était magnifique, et en particulier les deux finales des deux blocs. Voilà, si vous regardez ça, vous serez content.
On a des bons plans de Ringside.
Des bons plans, il y en a toujours. NJP en force, hein, y a du public, donc ça, y a des beaux matchs, et il y a du public, c'est super. Voilà, pour le reste, comme je vous ai dit, on se retrouve très bientôt. Merci de nous avoir écoutés. On espère que ça a plu autant à écouter que nous à enregistrer. Ciao, bye bye.
Salut à tous.
Pas envie de lâcher l'antenne, dis donc.
Non, tu veux pas, t'as qu'à faire un peuple de catcheurs.
Ouais, peuple de catcheurs.